Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, du lundi au jeudi, entre 18h20 et 19h. Un temps du débat un peu particulier, spécial, qui clôt une journée de programme enregistrée samedi dernier, lors du forum de France Culture, à la Sorbonne. Nous nous retrouvons donc dans ce magnifique grand amphithéâtre de la Sorbonne pour cette journée spéciale de France Culture sur la société face au conflit. Et c'est de conflits de paroles, de batailles de mots dont il sera question ce soir, sous la magnifique figure de l'allégorie de l'éloquence qui est derrière moi ici sur cette belle fresque de Puvis de Chavannes qui s'intitule « Le bois sacré ». Une éloquence dont le peintre nous dit qu'elle célèbre les conquêtes de l'esprit humain. Mais y a-t-il de l'éloquence sur les réseaux sociaux, sur le web, sur l'internet, qui vont être au cœur de ce débat, titré le goût du clash a-t-il remplacé le débat public ? Éloquence, clash, voici des expressions dont on se demande si elles font bon ménage quand le débat public, justement, nous semble rongé par la violence verbale et la volonté d'humilier l'autre. Pendant ces 40 minutes, nous parlerons peut-être de conspiration du silence, de parésia, selon Michel Foucault, de spirale du silence ou encore d'air du clash avec nos trois invités. Nos trois invités sont Christian Salmon. Christian Salmon est écrivain, auteur de L'air du clash, paru l'année dernière chez Fayard. Marilyn Maezo est professeure de philosophie. Elle est essayiste et elle est auteure de « Les conspirateurs du silence » paru aux éditions de l'Observatoire il y a 2 ans. Et puis, nous avons également avec nous Pauline Escande-Gauquier, qui est donc sémiologue et maître de conférence à Sorbonne Université CELSA. Elle est co-auteure d'un livre avec Bertrand Névin aux éditions François Bourin, qui s'intitule « L'autre visage des réseaux sociaux ». Je voudrais commencer sur le fait que c'est ici, si ça n'est pas ici exactement, mais tout près d'ici, dans ce quartier qu'on a appelé quartier latin, qu'est née la disputatio qui était une forme justement de débat public dans l'université du Moyen-Âge. Est-ce qu'on s'est éloigné si considérablement que justement à la fois l'éloquence qui est représentée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans ce temple de l'esprit républicain que se voulait être la Sorbonne et la disputatio donc médiévale, Christian Salmon, sont tellement éloignés que d'une certaine façon nous sommes dans une autre ère, l'ère du clash ou l'ère du 2.0, Christian Salmon.
Après la révolution numérique qui est en fait ce que moi j'appelle l'ère du clash, c'est la rencontre de 4 révolutions enchevêtrées. Hein. La première, c'est la révolution technologique. Il faut rappeler quand même, pour se remettre en mémoire, ce qui s'est passé entre 1995 et aujourd'hui. C'est une explosion des données échangées sur Internet. Hein. Eric Schmidt, le patron de Google, dit que le nombre de bytes qui sont échangés depuis 95.
C'est l'unité de mesure numérique, justement.
Oui, c'est l'unité de mesure numérique, hein, et égale 5 milliards de milliards d'exabytes, c'est-à-dire à peu près le même niveau de contenu échangé par les êtres humains depuis l'origine de l'humanité. Donc on est dans un gap technologique et une abondance, une inflation de données très importante. Donc cette inflation de données crée une sorte de gap technologique qui n'est pas géré politiquement pour le moment, puisque depuis aussi l'apparition d'Internet, qui était, je le rappelle, simplement un lieu, l'intranet, qui était un lieu de délibération démocratique, on pensait que on allait pouvoir avoir une horizontalité des échanges, etc. Ça a été frappé par la libéralisation, la concentration, les GAFAM, mais auparavant la concentration des gros groupes de téléphone, hein, 3 groupes qui maîtrisent absolument tous les canaux. Et donc ce croisement entre la révolution technologique et l'irruption du capitalisme néolibéral, la financiarisation, crée une sorte d'univers très particulier qui va modifier le comportement des acteurs. Donc moi, je suis effectivement dans la violence, la transgression, on va en reparler, mais il faut insister sur l'aspect systémique Ce qui change, c'est ce micro-univers qui va modifier les comportements.
Et qui nous éloigne justement de la disputatio médiévale ou encore de l'éloquence telle qu'elle est définie par Puvis de Chavannes, ici même. Marilyn Maeso, dans ce beau petit livre que vous appelez « Les conspirateurs du silence », vous aidez de quelqu'un que vous admirez beaucoup et qu'on est nombreux à admirer, qui est Camus, pour essayer de comprendre ce qui se passe justement dans ce que vous qualifiez de débat public rongé. Il est rongé par quoi? Il est rongé par qui? Est-ce qu'il est rongé par la technologie? Est-ce que cette technologie nouvelle que nous connaissons depuis maintenant un peu moins de 20 ans a considérablement fait évoluer la notion du débat public, selon vous, Marilyn Maeso?
Je pense que déjà, il faut quand même se mettre d'accord sur les mots. La technologie, c'est un outil. Et le principe d'un outil, c'est qu'on peut l'utiliser comme on veut. Un couteau, ça peut servir à libérer quelqu'un de ses liens, comme ça peut servir à le tuer. Mais de la même manière, la technologie, ça offre des possibilités d'échange et surtout de mise en réseau à travers la planète qui sont quand même considérables et qui sont positives. Je prends un exemple positif pour commencer, pour revenir ensuite vers le moins reluisant. Quand on regarde des mouvements comme MeToo ou d'autres mouvements de libération de la parole, un simple hashtag peut être un outil qui permet à des personnes de prendre conscience qu'elles ne sont pas seules et qu'on est de plus en plus nombreuses à parler et que donc c'est peut-être le moment de prendre la parole. Bon, ça c'est quelque chose quand même que la technologie permet. Sans la technologie, c'est beaucoup plus difficile de mettre aussi rapidement en réseau un aussi grand nombre de personnes. Le problème, bien sûr, c'est que vous preniez l'exemple de la disputatio. La disputatio, c'est quand même un art qui est extrêmement codifié. Mm-hmm. Vous disiez, comme à juste titre, que ça se produisait dans les murs de la Sorbonne. Donc, c'est un cadre quand même qui était lui-même réglé. C'était pas n'importe qui prenait la parole. Bien sûr. Des personnes qui avaient préparé leur sujet.
Maître Albert, Thomas d'Aquin ou d'autres, effectivement.
Voilà. Là, les réseaux sociaux, le principe, c'est n'importe qui peut intervenir à n'importe quel moment sur n'importe quoi, pour dire éventuellement n'importe quoi. Donc il y a ce problème d'absence de codification qui fait que à la fois ça peut créer un phénomène d'échange inattendu, comme ça peut créer des phénomènes qui vont du bazar ou du buzz au cyberharcèlement, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a ce problème d'anomie en fait qu'on trouve.
Il y a eu une tentative au tout début de l'invention du net. Mais je me souviens que j'étais sur le net dès 95-96 et on avait ce qu'on appelait l'étiquette. La netiquette, c'était on avait plus ou moins créé, on ne sait pas qui d'ailleurs, une sorte de norme pour éviter d'écrire en majuscules, pour ne pas hurler sur le net, par exemple, en utilisant que des majuscules. Évidemment, ça a sauté assez rapidement, on peut dire.
Ah oui, effectivement, la pratique qui consiste... Alors maintenant, il y a plus simplement le fait d'écrire ce qu'on appelle caps lock, on prend l'expression anglaise. Il y a aussi l'arrivée des émoticônes ou emoji qui permettent, par exemple, cette manie de mettre des petits emojis avec les mains qui frappent entre chaque mot, pour insister sur ce qu'on dit, comme si on voulait claquer en fait la personne qu'on a en face. C'est assez intéressant comme symbolique. Sur la question de la violence verbale et de la polémique, la raison pour laquelle je suis partie de Camus, c'est parce que Camus, dans un texte qui est
un très beau texte d'ailleurs,
incroyablement avant-coureur en fait, il analyse le mécanisme de la polémique. Et il dit que la polémique, ça consiste à simplifier l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Et il a cette formule que je trouve exacte. Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. Puis il termine en disant, devenu aux trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus dans un monde d'hommes, mais dans un monde de silhouettes. Et je trouve que quand on relit ce texte à la lumière, par exemple, du fonctionnement des réseaux sociaux, ou plus spécifiquement de ces dérives en lien avec la multiplication des polémiques, c'est quelque chose d'extrêmement éclairant, parce que dans la disputatio, il y a de toute façon un adversaire. Vous avez un point de vue, il y a le point de vue dit adverse, mais donc ça implique que vous reconnaissiez le point de vue de l'autre comme un point de vue qui se tient, si bien que vous êtes prêt à argumenter face à lui pour défendre votre position. Dans le cas de la polémique, au sens camusien du terme, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des ennemis.
Que des ennemis.
Donc la personne en face, le but, c'est pas de discuter sa position, c'est de lui attribuer la position nécessaire de manière à pouvoir ne pas avoir à discuter et à pouvoir l'annuler, en fait. Ce qu'on peut voir notamment dans la pratique de la cancel culture, en fait.
Cancel culture, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs et à ceux qui se trouvent ici dans cette salle du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne de ce dont il s'agit.
Oui, traduit littéralement, c'est la culture de l'annulation. c'est une pratique qui était notamment très pratique au départ aux États-Unis, qui consiste à décréter qu'une personne doit être annulée, c'est-à-dire comme on peut annuler un événement, ben là on annule une personne. Si elle a dit quelque chose ou fait quelque chose qui ne va pas, on fait en sorte qu'elle n'ait plus le droit à la parole ou qu'on l'invisibilise.
Oui, c'est une pratique qui peut remonter à l'Athènes classique, oui, quand on décidait effectivement
d'ostraciser
celui qui ne participait plus aux règles de la cité. Qu'est-ce que Pauline Escande-Gauquier, vous appelez avec Bertrand Névin dans votre livre Monstres 2.0, justement, ces monstres 2.0, c'est-à-dire en quoi ces réseaux sociaux sur lesquels nous nous trouvons pour beaucoup d'entre nous ont-ils changé la façon dont on concevait, par exemple, cette notion de débat ou de disputatio ?
Alors, cette notion de monstre 2.0, c'est parce que la figure du monstre, ce qu'on a voulu montrer, elle est là pour essayer de réévaluer, finalement, les normes partagées, collectives, les règles du vivre ensemble. Et tous ces, ce qu'on pourrait qualifier de débordements sur les réseaux sociaux, eh bien, comme le harcèlement, l'incitation à la haine, les propos sexistes, etc., ou même l'annulation, la liquidation de l'autre en tant qu'être humain, eh bien, justement, ce sont des monstres qui, à un moment donné, amènent à réévaluer les normes partagées collectives au niveau des mœurs, au niveau politique, idéologique. Par rapport à votre question, quels sont ces nouveaux langages qui sont sur les réseaux sociaux ? Effectivement, il y a dans le projet, je dirais, des réseaux sociaux, si on revient à la culture des hackers, il y avait ce désir de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer, donc cette logique d'horizontalité dans la prise de parole, démocratique, de libre expression, de gratuité aussi, et dans quelle mesure finalement cet héritage d'une utopie est gardé, parce qu'il est quand même gardé sur certains espaces, hein, et c'est pas forcément ceux qui sont les plus visibles sur les réseaux sociaux. Et pourquoi, finalement, systématiquement, ce qui est rendu visible, c'est tout ce qui est transgressif, polémique. En fait, il y a une explication déjà très simple, c'est que à partir du moment où on est dans une rhétorique du pathos, de l'émotionnel, ce que va favoriser le dispositif des réseaux sociaux, le médium dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un nombre d'éléments limités dans la prise de parole, c'est-à-dire que vous pouvez, notamment sur Twitter, il y a très peu de mots pour s'exprimer. Ensuite, il y a toute une logique de l'évaluation qui est là, qui est présente, où on demande finalement un feedback immédiat. Donc cet aspect de l'immédiateté amène aussi à de l'émotionnel et du pathos, en demandant de réagir soit par du commentaire, soit par des émoticônes que vous exprimiez, qui sont des dispositifs d'évaluation. Et donc toute cette culture finalement numérique amène à des nouvelles formes de transgression et à de la polémique.
Et puis, il y a des figures, pourrait-on dire, de cette nouvelle culture du clash médiatique qui passe par les réseaux sociaux. Parmi ces figures, évidemment, il y en a une qui est très connue dans le monde entier, c'est la figure de Donald Trump.
Oui, alors Donald Trump est, je dirais, un archétype de la culture numérique et je dirais, la prise de parole sur cet espace qu'est le digital.
Qu'est-ce qu'il a compris que d'autres n'ont pas compris ? Qu'est-ce qu'il a compris avant les autres de ces usages, justement, de ce qui n'est plus du débat public, mais de l'interpellation publique, de ses adversaires, de cette insulte qu'il peut pratiquer ? Qu'est-ce qu'il a compris avant tout le monde, d'une certaine façon, Donald Trump ?
Alors, déjà, on pourrait dire de Donald Trump, c'est qu'il est un polémiste, hein, voilà, au sens stricto sensu du terme, parce qu'il va, il connaît très bien les ressorts médiatiques des réseaux sociaux, donc il va exploiter justement cette injonction à cette interpellation au feedback, à la réaction, en étant systématiquement transgressif, en jouant justement sur les normes, c'est-à-dire
oui, il y a beaucoup de majuscules
en flirtant
dans
avec
tweets, par exemple.
Des propos sexistes, homophobes, racistes. Donc il sait très bien que voilà, il va aller vers une polémique en ayant des prises de position, je dirais, attendues par rapport à un public qui le suit. Finalement, il n'amène jamais au débat, au sens stricto sensu du terme, parce que qui dit débat dit logos, dit argumentation. Dans débat, il y a délibération, et il n'y a pas de délibération possible, parce que il va vers de la stéréotypie qui appelle finalement à des réactions qui sont de même ordre que sa prise de parole.
Christian Salmon, dans votre ère du clash, c'est un de vos héros, entre guillemets, dans le sens où c'est un des personnages principaux de votre travail sur cette ère du clash. Donald Trump, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, a systématisé ce que d'autres leaders politiques extrêmes avaient fait auparavant, mais dans un domaine restreint. On peut dire que dans chacun des pays de l'Europe, il y avait des leaders qui, parfois, parlaient du rafour crématoire. On attendait que ça se passe. Et puis, au bout du compte, il y avait la polémique qui faisait qu'ils devenaient centraux alors qu'ils étaient marginaux. Est-ce que, d'une certaine façon, Donald Trump systématise justement cette question du clash pour pouvoir être central alors qu'il était considéré, y compris chez les Républicains, comme marginal?
En gros, dans le débat précédent, on parlait de 2008, la fin d'un cycle néolibéral. On pourrait dire qu'à accompagnant cette fin de cycle 2008 néolibéral, il y a aussi une fin de cycle rhétorique. C'est ce que moi j'appelle la fin du storytelling, parce que Obama a représenté une sorte de zénith du storytelling extrêmement sophistiqué. Et lorsque démarre la campagne de Trump, personne n'est capable de prévoir son élection. Alors, vous avez donné des raisons très 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 justes hein, sur la manière dont il intervient, mais il ne faut pas oublier non plus le fait que c'est ce que j'appelle le clown et l'ingénieur. Vous parliez de toutes ces figures européennes, qu'il s'agisse de Boris Johnson avec Dominic Cummings, qu'il s'agisse de Bolsonaro avec Steve Bannon, Salvini et le parti algorithme de Beppe Grillo. On a à chaque fois cette figure du transgresseur, de celui qui va systématiquement aborder des thèmes de transgression, choquer, etc. Mais ça repose sur une machine. Italie, on l'appelle la bestia.
Oui, ce qu'on appelle les ingénieurs du chaos.
C'est également ce qu'a bien analysé
Giuliano D'Ampoli.
D'Ampoli, dans son livre Les ingénieurs du chaos. Donc il y a une sorte de néo-fascisme.
Il y a des penseurs en arrière de la main et des personnes qui, sur la place publique, donc considèrent que ce clash est nécessaire pour pouvoir avancer et faire avancer leur cause d'une certaine
Exactement.
Façon.
C'est-à-dire qu'on a des figures un peu archaïques qui seraient Jean-Marie Le Pen, par exemple, fonctionner. D'ailleurs, on peut se demander si Marine Le Pen n'est pas décalée par rapport à l'évolution historique, par rapport à son père qui était vraiment dans cette logique de la transition. Mais c'est ce dont il faut parler à ce propos-là, c'est le scandale Cambridge Analytica. C'est-à-dire que sans les big data, les algorithmes, l'utilisation des données...
Pour rappeler que Cambridge Analytica a joué dans la campagne électorale américaine en particulier un rôle considérable et que Cambridge Analytica est lié directement au groupe Facebook et donc à ceux qui dirigent
oui,
justement ces campagnes.
Vous savez, c'est le scandale du Brexit et de l'élection de Trump. Le coup de génie de Cambridge Analytica, c'est d'utiliser les big data venus de Facebook, de les retraiter par des algorithmes et de construire des profils d'individus. Et de s'adresser à ces profils d'individus en leur balançant sur leur compte Facebook des fake news alarmantes, mais qui vont dans le sens de ces profils psychologiques.
Mais en quoi ces pratiques changent-elles le débat public, justement, puisque c'est le thème de notre discussion, c'est-à-dire, est-ce que, justement, elles vont dans le sens d'une ère du clash, elles vont dans le sens d'un goût du clash, de la volonté, justement, de s'affronter, ou est-ce qu'elles ne participent pas simplement au débat public, simplement modernisé par les outils qui sont les nôtres?
Il faut analyser les effets de ces stratégies numériques. Hein. Ce sont des robots qui s'adressent à des robots. Hein. On n'a même plus le passage par l'humain. Mais pour répondre à votre question plus précisément, quand j'ai parlé au début de cette inflation des discours, des énoncés, etc., il faut voir l'effet que ça a. C'est-à-dire que depuis 2008, et la crise de 2008 a joué un rôle très important, on est entré dans ce que j'appelle la spirale du discrédit. C'est-à-dire que toutes les autorités, on en fait tous l'expérience, les autoritas, hein, ceux qui ont le droit de parler ou qui ont la légitimité de parler, qu'ils soient médecins, hommes politiques, religieux, etc., ont perdu toute crédibilité dans l'espace public. Au fond, ce n'est plus l'adhésion, ce n'est plus la conviction, ce n'est plus la délibération qui joue le rôle central, c'est le discrédit. Hein, c'est-à-dire, c'est un peu comme vous misez à la bourse, à la baisse. Hein.
C'est d'annuler l'adversaire, comme le disait Camus à propos de la polémique. On annule celui qui est en face de soi.
C'est exactement ça.
Alors, c'est ce que vous semblez regretter dans votre livre, Marilyn Maezo, puisque en reprenant les termes de Camus, vous dites que on étouffe parmi les gens qui croient avoir absolument raison. Il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'accepter le débat public, accepter le débat, tout simplement, c'est simplement accepter de ne pas être d'accord avec celui qui est en face, mais de se laisser parfois convaincre par ses arguments. Et vous dites que ça n'est plus le cas aujourd'hui, qu'en tous les cas, dans ce débat tel qu'il s'instaure aujourd'hui, on est plutôt dans le régime de la confrontation et de l'annulation de l'autre que de l'acceptation de ses propres arguments.
En effet, parce que quand Camus parle de polémique, c'est d'ailleurs une objection qu'on m'a faite, et c'est bien parce que j'ai pu préciser les choses. On m'a dit oui, non, mais si vous discréditez la polémique, ça veut dire que votre idéal du débat, c'est la conversation de salon où tout le monde est d'accord. Alors que pas du tout. À mon sens, la raison pour laquelle le clash est le contraire du débat, c'est précisément parce que le clash sert d'écran de fumée pour éviter qu'on discute du fond. Le but d'un clash, c'est littéralement d'empêcher qu'on débatte.
Et pourquoi ça a tant de succès? Parce qu'on peut se poser quand même la question. On voit bien que d'une certaine façon, ces émissions-là emportent l'adhésion d'un certain nombre des téléspectateurs, des auditeurs, des internautes, parce que voilà, ils ont un grand écho.
Mais ça, c'est un phénomène. Je vais revenir sur les réseaux sociaux, mais d'abord une toute petite aparté. Vous avez évoqué tout à l'heure Foucault et la parésia.
Il faut peut-être préciser ce que c'est que la parésia.
La parésia, la traduction la plus standard, disons, c'est le franc-parler, le fait de dire la vérité, le fait de dire vraiment et de rechercher la vérité. C'est un concept antique qu'il analyse notamment dans le rapport, par exemple, de l'élève à son professeur qui l'aide à se diriger vers la vérité, et aussi, et c'est de ça que je veux parler, dans son pan négatif ou obscur, qui est le rôle des démagogues, en fait, la manière dont eux s'emparent de la parole pour dire au peuple ce qu'il a envie d'entendre, de manière à lui faire faire, lui faire croire ce qu'il veut. Justement, dans l'Antiquité, et Foucault s'en fait l'écho, déjà, on avait conscience du fait que la parole est un pouvoir, et qu'un pouvoir, on peut l'utiliser pour faire le bien, ou pour faire son propre bien, c'est-à-dire pour son intérêt personnel. Ce que vous évoquez aujourd'hui, ce que les réseaux sociaux ont changé, c'est qu'ils ajoutent, ils donnent des armes encore plus puissantes, encore plus performantes pour parvenir au même résultat, à savoir faire passer ses propres idées en donnant à la population ce qu'elle a envie d'entendre. Alors pourquoi Camus dit « nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison » ? Parce que, tout simplement, c'est un mécanisme fondamental du psychisme humain que le doute est quelque chose de désagréable. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, le logicien et philosophe Peirce avait mis en évidence dans son article sur la construction de la croyance. Descartes, selon Peirce, a une conception du doute qui est extrêmement organisée, maîtrisée, rassurante finalement, parce que il est dans son poêle, il est tranquille, il se dit bon, j'ai 6 jours à tuer, une méditation par jour, tout va bien. Il y a une maîtrise quand même là-dedans, c'est très structuré, c'est organisé. Bon. Peirce explique, le doute, généralement, c'est pas ça. Le doute, c'est un truc qui vient vous titiller l'esprit. Si vous avez la possibilité de vous en débarrasser à peu de frais et de revenir sur vos certitudes, vous la saisissez au vol. Le jour où vous n'avez plus la possibilité de vous accrocher à vos certitudes, vous êtes dans le malaise. Et en fait, le doute, ce qui le caractérise par excellence, selon Peirce, c'est le fait qu'on essaye tout prix d'en sortir. Quand vraiment on est happé par le doute, la démarche de remise en question et donc de recherche de connaissances, elle est animée par la volonté de faire cesser le doute. L'avantage de ce point de vue-là de la démagogie et des discours fondés sur le clash qui donnent à entendre ce qu'on a envie d'entendre, c'est que ça permet justement d'échapper à l'épreuve du doute et donc d'avoir le sentiment de rester dans son confort intellectuel.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce que vous dites aussi, Pauline Escande-Gauquier, vous dites que la logique du doute, ça n'est pas connu des polémistes, par exemple. Les polémistes, ils ne sont pas là pour douter, ils sont là pour affirmer, taper du poing sur la table, comme le disait à l'instant, Christian Salmon également.
Oui, tout à fait. Et après, je voulais quand même revenir sur cette notion de débat. Et parce que pour moi, il y a énormément de lieux aujourd'hui où le débat a lieu qui sont invisibles.
Soyons positifs.
Et je trouve qu'il y a un médiacentrisme à surévaluer la force de frappe des réseaux sociaux et une hyper-visibilité finalement de ces prises de parole au détriment des autres. qui, pour moi, participe grandement au débat public.
Oui, mais néanmoins, il faut bien reconnaître que, alors c'est peut-être un biais du journaliste que nous sommes, ces réseaux sociaux, ils sont observés par les journalistes. Et donc, peut-être on leur donne une trop grande visibilité parce que on y est nous-mêmes, on s'y informe, ça devient un fil AFP bis, d'une certaine façon, ça fait partie aussi peut-être de cela. C'est peut-être ça qui conduit à cette surreprésentation et à sa sous-représentation de débats qui ont lieu un peu plus fréquemment et qu'on ne voit moins souvent, c'est ça, Pauline Escandoucci ?
Oui, je pense qu'on est aussi pris dans cette espèce de spirale qu'on en oublie, en fait, que l'évolution, finalement, du débat démocratique se passe aussi dans ces autres espaces et qu'on voit bien, finalement, que ça a lieu puisque l'évolution des mœurs est là, à travers des grandes lois comme le mariage pour tous, tout le débat qu'il y a actuellement au niveau de la PMA et que ça se passe aussi ailleurs que dans les médias et que c'est ces lieux qui sont extrêmement importants aussi. Voilà, je voulais juste rappeler...
Mais néanmoins, reconnaissons, et c'est pas pour aller dans le sens de Christian Salmon, mais qu'il y a une performativité à cette agressivité telle que vous l'avez décrite tout à l'heure vous-même pour Donald Trump. Il a été élu président des États-Unis. Donc d'une certaine façon, on peut dire que cette agressivité, cette volonté de nuire et cette volonté de faire mal à ses adversaires a quand même un effet, pas simplement un effet médiatique parce que les journalistes s'y penchent.
Il y a une performativité effectivement rhétorique et, sur les réseaux sociaux et numériques qui amène finalement à une culture que vous avez appelée du clash, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qui oblige à éluder la question du doute. Voilà, qui est quand même essentiel dans le débat, qui est même structurant dans le débat. Et moi, je voulais aussi rappeler à un sociologue que j'aime beaucoup, qui est Howard Baker, et qui montre bien que finalement, si le scandale a un écho, c'est parce qu'il y a aussi un public qui est là pour l'écouter et pour réagir. Donc je pense qu'aussi il y a une éducation, une éthique du regard, une éthique de la parole, dans l'autre comme un autre soi, en fait, qui est extrêmement important de réhabiliter et d'éduquer aussi le public et la jeune génération à cela.
Marilyn Maezo.
C'est une excellente remarque, cette notion d'éducation. Je pense qu'on n'a pas encore parlé, qu'il faut quand même qu'on dise un mot dessus. Au sujet, par exemple, de la notion, du concept, plus précisément, de parésia qu'analyse Foucault dans sa conférence, il met en évidence, justement, sa dimension pédagogique qui est indispensable. On pourrait croire que passer de la disputatio médiévale aux réseaux sociaux, c'est une démocratie parce qu'on passe du petit cénacle universitaire à quelque chose, voilà, aux quelques-uns, hein, l'ensemble de la population. C'est vrai que sur le papier, ça a l'air de fonctionner comme ça, mais je pense que c'est un peu illusoire quand même comme vision des choses, parce que ce que possédaient les membres, enfin les universitaires qui prenaient part à la disputatio, c'est une culture du débat, c'est une pratique en fait quotidienne qui faisait partie de leur cursus. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, mutatis mutandis, dans la pratique dans les pays anglo-saxons de ce qu'on appelle le debating. C'est une pratique qui a ses concours aussi entre universités, où littéralement on apprend aux étudiants à argumenter, parce que l'argumentation c'est pas quelque chose qui est inné, là encore, désolé Descartes, il n'y a pas d'innéisme en fait, de la pensée et de la manière de présenter ses idées et d'argumenter et d'être capable d'entendre le désaccord comme autre chose ou comme une offense, tout ça, ça s'apprend. La contradiction, ça s'apprend. La capacité à frapper à hauteur de cerveau et pas sous la ceinture, ça s'apprend. À partir du moment où ces choses-là ne sont apprises que par un certain nombre, on retrouve quand même une forme d'élitisme de la disputatio. Et je pense que de ce point de vue-là, on pourrait quand même peut-être suggérer qu'il y a une responsabilité des médias qui pourrait travailler à donner à voir au grand public autre chose que des émissions où systématiquement c'est le clash qui prend le dessus, parce que finalement l'exemple dont la majorité de la population va prendre, c'est celui-là. Si on donnait mieux à voir, hein, comme vous le soulignez, si on donnait de la visibilité grâce aux médias à des pratiques véritablement de débat plutôt qu'à des pratiques de clash, je pense qu'il y aurait une façon véritable de démocratiser le débat et surtout de l'assainir.
Oui, c'est ce qu'on essaye de faire très régulièrement dans notre propre émission et sur France Culture, bien évidemment, mais vous avez raison, cette question du débat est passée, ça n'est pas évident, parce que il y a, et ça vous êtes peut-être plus pessimiste d'une certaine façon, Christian Salmon, que les deux autres participantes à ce débat, vous dites en fait, on fait semblant de s'intéresser à la crise, on fait semblant de s'intéresser à la dette, on fait semblant de s'intéresser au chômage, avec des majuscules pour chacun de ces mots, alors que nous sommes assoiffés d'histoire, de héros et de méchants, et qu'on exige du suspense, des coups de théâtre. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement l'affaire Griveaux, ça fait partie de ces coups de théâtre, et qu'on exige qu'on nous raconte des histoires. Ça, c'est le Christian Salmon, non pas de l'ère du clash, mais du storytelling, qui revient par là. Et donc vous dites, de toute façon, on peut toujours essayer, comme l'espère Marilyn Maeso, d'éduquer, d'apprendre à respecter l'autre, à ne pas taper en dessous de la ceinture. Il y a toujours ce fond-là, qui est peut-être, c'est peut-être une vision pessimiste de l'homme, mais qui est toujours présent.
Je pense que c'est une question d'angle. J'essaie d'envisager, dans storytelling comme dans l'ère du clash, d'analyser les choses avec des tendances lourdes. C'est-à-dire comment on peut expliquer une telle dérive, une telle déconstruction démocratique, une telle dégradation du débat, ces émissions de télé, etc. Pour reprendre la question de la parésia, c'est très intéressant parce que Foucault ne prend pas, en tout cas ce que j'en ai compris, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il insiste, moi c'est ce qui m'avait intéressé, sur l'aspect scénographique du débat. Hein. On a dit, il parle même d'un rectangle de la bonne parésia. Qu'est-ce que c'est que ce rectangle? C'est des conditions juridiques, des conditions de performance personnelle, prendre l'ascendant par la discussion sur l'autre, des conditions même morales, le courage d'affronter la majorité qui n'est pas d'accord avec vous, et de mettre en jeu même sa parole et sa vie dans cet acte. Et il y a aussi le rapport au logos, c'est-à-dire essayer d'avoir un discours de vérité. Mais il dit aussi, au tournant du 4e, 5e siècle, s'installe la mauvaise parésia, c'est la crise de la parésia. Tout le monde a le droit de parler et dit n'importe quoi. C'est plus le rapport au logos, mais c'est la démagogie de la majorité, du sondage, d'aller dans le sens d'eux. Et évidemment, ce n'est pas le courage, mais la lâcheté. Mais j'ajoutais, moi, dans le livre, à ce rectangle, j'ajouterais bien un autre sommet, qui sont les conditions scénographiques. On sait bien que vous parliez de la Sorbonne, mais la parésia grecque, c'est le théâtre grec. Foucault insiste beaucoup là-dessus. Il y a des conditions d'acoustique. Hein, c'est-à-dire que il faut que vous soyez au dernier rang du cirque ou au premier rang, vous devez entendre la même chose. Hein. Il faut un ordre, comme dans les assemblées, un ordre de prise de parole, de durée, donc des conditions chronographiques, on va dire, du débat. Ce qui nous amène à nous rabattre sur le comportement des individus, ou sur la responsabilité des médias, ou sur la responsabilité des politiques, ou des réseaux sociaux, c'est parce que c'est très compliqué d'analyser, de distinguer ces quatre révolutions simultanées dont je parlais au début, enchevêtrées. Une révolution du capitalisme, néolibéralisme, une révolution technologique, une révolution, on en a pas assez parlé aussi, des idéotypes, comment on s'expose soi-même, comment on se met en scène. Et ça, ce sont des injonctions. Foucault parlait de l'injonction au discours, mais on a des injonctions au comportement. Oui, je vous laisse la parole.
Pauline Escangoquier, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. C'est que cette culture du clash dans laquelle on est tous plus ou moins pris à un moment ou à un autre de nos vies laisse sur le côté ce que des sociologues ont appelé ceux qui sont dans la spirale du silence, c'est-à-dire ceux qui, d'une certaine façon, n'interviennent pas dans ce débat. Il ne faut pas croire que tout le monde intervient sur le net tout le temps.
Tous ces invisibilités, ces invisibles justement, qui ne prennent pas la parole, mais qui la prennent dans d'autres espaces,
c'est ce dont c'est ce que vous tout disiez à tout à l'heure,
et qui ont une parole parfois bien plus argumentée et constructive que celle qui se passe, voilà, sur les réseaux sociaux.
Ça veut dire que les conditions qui leur sont données, qui sont données à chacun d'intervenir sur les réseaux sociaux, sur le web, etc., ne leur conviennent pas. Le pacte n'est pas pour eux d'une certaine façon. Ils préfèrent un autre type de pacte.
Ils ont d'autres types. Enfin. Ce que je veux dire, à l'origine des Gilets jaunes, il y a aussi un moment donné où finalement il y a une parole qui n'arrive pas à être entendue, où il y a une mobilisation collective pour se faire entendre différemment, avec parfois des nouvelles formes de violence quand on voit les débordements qu'il peut y avoir dans certaines manifestations. Mais en même temps, je trouve que les ressorts finalement de ces espaces médiatiques, c'est les mêmes que celui du théâtre antique, où tout est fait pour que les grandes passions humaines soient exaltées, exprimées, avec la figure du bon, la figure du salaud, et puis où finalement on va essayer de faire adhérer, avec un processus aussi qui fonctionne extrêmement bien, qui est celui de la victimisation, une victime désignée.
Oui, il y a aussi une figure nouvelle, relativement nouvelle, c'est ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire c'est ceux qui ne sont là que pour pourrir quelques débats que ce soit, c'est-à-dire pour pouvoir se valoriser eux-mêmes en entrant dans n'importe quel débat sur le net et en transformant ce débat en champ de bataille, alors qu'il peut y avoir à un moment ou à un autre une régulation qui s'est établie auparavant entre les participants de ce même débat.
Alors là, il y a une dérive du troll, parce qu'au départ, en amont de la culture numérique, le troll avait une petite logique subversive, justement, qui amenait au débat et pas forcément à
absolument.
La polémique.
Absolument, au départ, c'était
sauf
ça.
Sauf que là, il y a une déviance, effectivement, où le troll est systématiquement posé dans une logique transgressive et pas subversive. Voilà, donc il y a une nuance qui est extrêmement importante. Parce que finalement, dans la subversion, il y a aussi ce désir d'appeler à une parole et une écoute de la parole qui est en face, ce qui n'est pas forcément l'objectif de la transgression.
Il n'est pas si facile de se faire entendre sur les réseaux sociaux. Les conditions du débat sont extrêmement complexes. Des gens disent quelque chose, ça n'est pas entendu comme tel, par exemple, Marine Marizot.
La question des conditions est fondamentale. Vous évoquiez justement le fait qu'il existe d'autres lieux de débat qui sont peut-être plus propices que les réseaux sociaux. Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que c'est à la fois un médium de l'immédiateté, vous l'évoquiez tout à l'heure, puisque c'est un médium qui invite à la réaction plutôt qu'à la réflexion. Il y a un tweet, il faut immédiatement commenter, puis commenter un commentaire de commentaire, ça fonctionne comme ça. Mais c'est aussi un média de la médiation. C'est-à-dire que c'est un médium de la médiation au sens où, première médiation, la médiation de l'écran, c'est quand même pas la même chose que de devoir débattre face à face avec quelqu'un ou de devoir commenter par écran interposé. On sera beaucoup plus facilement dans l'excès, dans la violence, même dans la menace, si on n'a pas en face la personne sur le visage de laquelle on pourra lire les réactions, que si on est derrière son écran en train de tweeter à 3 heures du matin. L'autre médiation aussi, c'est, comme vous l'évoquiez, le fait que il y a un rapport quand même aux sources qui est plus que léger sur les réseaux sociaux. Lorsque je tweete en disant « machin a dit que c'est scandaleux », il n'y aura pas, de manière générale, le réflexe d'aller vérifier le verbatim de ce que la personne a dit. Une interprétation devient la vérité, et puis ensuite on peut avoir des commentaires d'interprétation, à tel point que la version originale n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de version originale, avec l'idée que si on l'a compris comme ça, c'est que vous avez vraiment dit ça.
Là encore, vous dites de l'éducation pour pouvoir justement apprendre à lire ces polémiques telles qu'elles sont en train de se faire.
Oui, de l'éducation, mais pas seulement, parce que c'est un autre point quand même que je voudrais ajouter. Il faut faire attention au sens où il ne faut pas s'imaginer que les personnes qui ont le plus d'éducation, qui ont fait les plus grandes études, sont forcément ceux qui polémiquent le moins. les pratiques que je décris, vous les retrouvez également chez des grands universitaires, journalistes, auteurs. Donc c'est pas du tout une question simplement d'éducation, c'est aussi une question à un moment donné pour revenir sur la notion de parésia, d'éthique personnelle.
Un dernier mot, Pauline.
Oui, je voulais dire, juste pour rebondir par rapport à cette notion de vérité qui pour moi est essentielle sur les réseaux sociaux, elle ne se pose pas à partir du moment où c'est vraisemblable, où ça fonctionne, et bien, et que ça contamine, ça circule, peu importe la vérité.
Merci à tous les trois. Je rappelle que vous êtes Pauline Escangoquier avec Bertrand Névin, auteur de Monstres 2.0 chez François Bourin, Marilyn Maizot des Conspirateurs du silence qu'on peut trouver en folio, et pour votre part Christian Salmon de L'ère du clash chez Fayard. Et on terminera peut-être avec cette phrase tirée de votre livre, Marilyn Maizot, et qui est une citation de Camus: nous sommes du parti de ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Merci encore à tous les trois. C'était Le Temps du Débat, Chloé Cambrelin, Louise André, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prissé. À la technique, à la Sorbonne, Christophe Michou, Andréa Jaffray, Thomas Robin et Stéphane Beaufils. À la réalisation, Olivier Guérin et Alexandre Manzanares.